Voilà, on va se partager ce temps avec David et c'est chouette. C'est bien, on travaille en équipe et c'est une bénédiction de pouvoir travailler en équipe. Une vraie bénédiction. Alors, le sujet c'est la maison de prière et donc la tente de la rencontre avec un rapport aussi de ce qu'on a vécu à Augsbourg. Alors si on peut passer juste à la diapositive suivante. Une question qui se pose quand on parle de maison de prière, donc le pauvre Aurélie doit juste appuyer sur le bouton. Alors, c'est quoi? C'est quoi une maison de prière? Parce que finalement, c'est un concept dont on entend parler. Une église, on arrive peut-être à définir ce que c'est. Une chambre de guérison, on arrive à comprendre. Le sozo, une fois qu'on nous a expliqué, on arrive à comprendre. C'est quoi une maison de prière? Est-ce que certains ont des idées là-dessus? On aimerait juste vous écouter quelques avant d'aller plus loin. Si je voulais vous interroger, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une maison de prière? Qu'est-ce que vous répondriez? Une maison en prie, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais on peut prier à la maison. Alors, oui. Maison, on prie, on adore 24h/24. Ok. Je ne dis pas que c'est faux ou c'est juste. Hein. Il y a... Ouais. Quelle forme de structure ça devrait avoir? D'accord, c'est bien. Ah, et un concept plus loin, on est basé sur quelque chose. En tout cas, même s'il y a des réponses, je pense que c'est jamais évident de définir vraiment entièrement ce que c'est. C'est un concept qu'on voit, mais qu'est-ce que ça peut être vraiment dans la réalité? Et donc on va faire un cheminement aujourd'hui, et vous verrez que nous sommes dans un cheminement, on n'est de loin pas dans des choses... Voilà, c'est comme ça, c'est figé, on est dans un cheminement. Et c'est bon. C'est juste bon. Parce que si on était déjà arrivé, je crois qu'on serait déjà en train de se scléroser. C'est bon, c'est fini, on peut passer à autre chose. On est dans un cheminement. Et dans ce cheminement, on a pas mal de références. Historiquement, il y en a plein. On pourrait regarder ce qui s'est passé en Irlande il y a plusieurs dizaines de siècles, fin du 800, 900, 1000, 1100. Il s'est passé plein de choses. Ce qui s'est passé en Allemagne, à Erfurt par exemple, à la fin de la réforme, 16e, 17e siècle. Ce qui s'est passé encore plus loin en France avec Martin de Tours, c'est un monastère. Est-ce que vous savez qu'il y a une maison de prière 24h/24 en France depuis 1885? Le Sacré-Cœur à Montmartre. Alors, ça peut-être pas ma maison de prière, mon concept. Parce que vous savez, là, du coup, on est dans les concepts. Je commençais à chercher une maison de prière à un moment donné, et j'ai vu qu'il y avait à un moment donné, pour les catholiques, il y avait 75 000 inscrits. Ils prient. Est-ce que je peux les ignorer parce qu'ils ne correspondent pas à ma vision d'une maison de prière? 75 000 personnes en France qui se réunissent pour prier dans des veillées de prière, régulièrement. Ouf, ça booste, hein? Donc, une maison de prière, il y aura plusieurs éléments qui vont nous aider à se définir. On va juste en voir, ici, je vais parler de trois canaux principaux qui nous travaillent et sur lesquels on est en train d'être enrichi. Juste pour montrer qu'il n'y a pas qu'un concept de maison de prière. Si on peut passer la diapo suivante, donc différents modèles. Alors celui-là, plusieurs ont déjà été là-bas. C'est à Bethel. Donc vous voyez, c'est un grand bâtiment rectangulaire. C'est comme un supermarché. Il y a plusieurs milliers de personnes qui peuvent rentrer dedans. Il y a un grand parking. Clic suivant. Là, on peut apercevoir la maison de prière qui est juste en face. Clic suivant. Une photo avec devant la piscine de Bethsaïda. Et cette maison de prière s'appelle... le vase d'albâtre. Clic suivant. Et là, c'est à l'intérieur. Donc, comme maison de prière, c'est pas mal. Il y a toute une architecture, il y a tout un cheminement intérieur et extérieur au travers de l'architecture, de la décoration. Et c'est pas juste la déco, c'est des choses reçues de la part de Dieu. Et ça a coûté une fortune de faire ce truc-là, mais les gens ont reçu tout ce qu'il fallait faire. Et c'est un lieu où on est plutôt dans le soaking, on est assez calme, bien que parfois ils peuvent être saisis par l'esprit et être tous un peu ivres. Donc, mais c'est un concept intéressant à vivre. Une adoration collective, mais quand même relativement personnelle, autour de la méditation, de temps simple. Vous me dites, si je me trompe les filles, ceux qui ont été, vous avez été ? Et c'est ça ? Voilà. On a plusieurs visiteurs de Bethel, on attendra un jour Claire parler, il y a Stella, mais aussi Elisabeth. Salut Elisabeth. Voilà. Alors, un autre concept, clic, dont on a beaucoup parlé, c'est ce qui se passe à Kansas City, International House of Prayer. C'est là où étaient les tendons, notamment, et d'autres. Il y en a qui ont passé aussi, comme One Thing, Vincent, Johan, il y avait été il y a quelques temps de ça. Donc, il y a une salle avec des groupes qui se partagent. Donc, on voit déjà la configuration est différente. Et le fait de voir une configuration différente va dire une structure différente. Clic. Voilà. Et c'est ce qu'on peut retrouver régulièrement sur le web, parce qu'on peut voir, bien sûr, cette maison de prière en live et suivre ce qui se passe. Je laisserai David exprimer d'autres choses sur ça, donc je ne vais pas revenir trop longtemps dessus. Clic. Alors, une autre maison de prière, où je n'ai pas encore été, mais je sais que j'ai envie d'y aller. Alors, ceux qui n'ont pas encore lu ce bouquin, Que la grâce abonde, en anglais, Grace Outpouring, je vous conseille. C'est un bouquin de révélation de ce que Dieu fait aujourd'hui en Europe, dans une autre style de maison de prière. Et c'est juste... Waouh ! Alors le contexte, très différent des deux autres. C'est beaucoup plus style anglican, c'est gris, c'est vert, c'est au milieu des collines, c'est donc mieux de nulle part. Clique encore. Et quand on voit les photos, on se rend compte que c'est très différent. clique suivante. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc, c'est ce lieu-là, par exemple, c'est très différent. Les gens viennent. Ils sont reçus, ils boivent un petit café. Les responsables les accompagnent dans la chapelle. Au revoir. Ils ferment la porte, ils s'en vont et ils laissent Dieu faire ce qu'il a à faire avec ces personnes-là. Ils font rien. Et les gens sont guéris de problèmes physiques, sont guéris de problèmes émotionnels, sont guéris de la drogue, sont guéris de comportements, sont guéris dans leurs émotions. Ils font rien. Ils ne veulent pas mettre les mains sur ce que Dieu fait. Ils ouvrent simplement la porte, ils les mettent dedans et ils ferment la porte. Et c'est même déstabilisant pour certains. Ils disent, mais vous faites rien avec nous, vous nous laissez comme ça. Et Dieu est à l'œuvre. Et c'est des maisons de prière. Le livre raconte tout le cheminement absolument incroyable de comment Dieu les a conduits. Et c'est une maison de prière. Et il se répand au travers des nations. C'est tout un réseau qui est en train de se construire. Donc vous voyez, quand on parle maison de prière, on se dit, bon, ben, vers où on va ? Et depuis, on va dire pratiquement 2 ans, on est dans ce cheminement. Essayer de définir qui on est. Qui on est ici, nous, à Guébillère ? Est-ce qu'on va être plus Ayo ? Est-ce qu'on va être plus Bethel ? Plus Pays de Galles ? Et qu'est-ce que Dieu nous dit à nous, ici, aujourd'hui ? On peut être un clone de quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il est important de comprendre qu'on a besoin de savoir qui nous sommes, nous. Je repensais à Israël, à la sortie d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne savaient pas qui ils étaient. Et à cause de cela, ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Ils se voyaient comme des sauterelles. Et parfois, c'est notre environnement très difficile, comme l'esclavage, qui nous définit. Qui nous dit, fais pas ci, fais pas ça. C'est les règles, c'est pas toi qui les définis. C'est les autres. Pour toi. Et tu les subis. Et c'est facile de se définir parce que tu es en réaction. Mais une fois que tu as enlevé tout ça, je suis qui ? Je suis quoi ? Je vais où ? Et on est dans cette étape d'essayer de définir qui on est. Je pense que c'est vraiment une étape importante de croissance. Je vais laisser la place. Je crois que David va continuer à nous conduire dans cette découverte, dans ce cheminement. Ouais. It's on.
Alors, nous sommes une équipe. Vito et moi, et Manuela et Rusty aussi, et on va voir qu'on fait les choses différemment. Donc moi je fais les choses différemment que de Vito, et c'est juste fabuleux qu'on touche différents domaines. Ce que moi je voulais faire, c'est ça touche vraiment l'attente de rencontre ici, c'est-à-dire notre maison de prière, et un peu un compte-rendu de cette année. Donc je voulais prendre du temps pour communiquer un peu ce qui s'est passé cette année, donner une idée où nous en sommes, un descriptif de ce qui est en place maintenant, parce que voilà, il y avait une petite croissance et un établissement. Présenter notre équipe, c'est très important. Vous passez en revue les moments clés de cette année. Et aussi partager un peu une rencontre charnière que Vito et moi, nous avons vécue en Allemagne il y a un mois. Et après, Vito va parler un peu de c'est quoi l'avenir pour nous. Alors, je vais toucher le bouton. Yeah, ça a marché. Merci Seigneur. Merci pour la technologie. Alors, où nous en sommes? Donc, pour commencer quelque chose, il fallait une petite direction quand même. Donc, il y a un an, on s'est constitué en équipe, et on s'appelle l'équipe de direction de la maison de prière ici. Je vais l'appeler l'attente de la rencontre, ou plus court, TDR. Donc, l'équipe de direction de TDR s'appelle ASAF. On a choisi ce nom parce qu'ASAF, il était un leader dans la maison de prière de David, dans le tabernacle de David. Tu peux le trouver dans la Bible. Il y a plusieurs psaumes qui étaient écrits par Asaph, et tu peux voir un peu qui il est par rapport à sa direction dans la maison de prière là. Donc actuellement, c'est Vito et moi, Manuela et Rusty Richards. Rusty est malheureusement pas parmi nous, mais on espère que ça va être en juillet. Simplement pour vous dire, ce mercredi 25 juin, Rusty et Janet, ils ont leur rencontre avec l'ambassade de France à Washington. Donc ils ont leur dossier à présenter, à voilà, chercher la faveur dont ils ont besoin. Donc comme équipe, nous réunissons pour prier et travailler nos relations comme base, ça c'est le truc le plus important, et aussi pour continuer de mettre en place les choses qui va permettre une croissance plutôt saine. Et de ce groupe, et avec beaucoup de travail de Vito, est née une charte qui détaille un peu notre vision, notre fonctionnement, notre histoire et contexte, de quoi on est né ici, et d'autres choses pratiques. Alors, notre vision, ça c'est la partie la plus courte. Il y en a plus longue sur le site, mais je vais le lire tout de suite. L'attente de la rencontre est un lieu privilégié pour rencontrer Dieu, le louer, exprimer notre gratitude, être à son écoute, exprimer sa créativité, proclamer, méditer les Écritures, rester en silence. C'est un lieu de ressourcement, de transformation, d'alliance et d'intimité, d'où on appelle le règne de Dieu à se manifester sur terre. C'est un lieu où on exerce la sacrificature dans l'intercession. Donc, dans le site, vous pouvez trouver encore plus de détails et de références bibliques par rapport à ça. On a créé une vision assez large. Il y a quand même une structuration. Il y a quand même, on est certaines choses, comme disait Vito, il y a plein de différents types de maisons de prière. On ne tombe pas dans tout, on tombe dans une certaine tranche, mais même dans ça, il y a une vision assez large qui donne de la place pour la diversité et la créativité. C'est quelque chose qu'on voulait avoir. Le contexte de la TDR, dans la famille de ministère qui est Josué, touchant bien sûr l'éducation chrétienne aussi, est quelque chose qui est très très important pour moi. Et d'après moi, je vois une maison de prière au sein d'un ensemble de ministères plutôt comme une chaudière qui brûle tout le temps, qui tourne tout le temps pour chauffer toute une maison, donc toute une maison de ministère, pour deux choses principalement pour moi. Je vois que ça nous garde nos cœurs chauds, parce que c'est très facile d'avoir les cœurs refroidis dans ce monde avec les circonstances, la vie quotidienne et tout ça. Donc d'avoir un rythme comme ça, ça garde chaud le cœur. Aussi, c'est une fondation de prière et d'intercession justement pour cet ensemble de ministères ici. Et je crois que ça, c'est important pour la croissance de tout ce que Dieu veut faire ici. On ne peut pas avoir une telle structure sans les personnes, et ce sont les personnes vraiment clés. Donc, il y a nos veilleurs, et il y a les gens qui participent, qui viennent. Et donc, pour être veilleur dans le TDR, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche que des musiciens. C'est pas forcément IHOP à Kansas City, où les musiciens sont à un niveau comme ça. On ne cherche pas forcément les gens qui ont des talents musicaux. C'est vraiment une affaire de cœur, de maturité et la capacité de diriger une veille de prière, une veille d'intercession. Nous avons déjà un veilleur qui ne vient pas de l'église Josué. Donc, bien que le TDR est un ministère de Josué, on veut que ça soit porté par le corps de Christ dans la région, donc porté plus largement. Nous sommes contents que différentes générations marchent ensemble dans le TDR. Donc, il y a jusqu'à 65, et je crois qu'on commence à 19, quelque part comme ça. Et donc, il y a toute une gamme. Et ça, c'est les veilleurs confirmés, c'est-à-dire les gens agréés quelque part pour mener une veille. Il y a aussi les plus petits qui étaient menés avec. Et ça, c'est super qu'on puisse faire des choses, qu'on peut inviter et amener des encore plus jeunes avec. Donc, il y a une collaboration entre les générations. Donc, il y a aussi un poignet de personnes qui assistent régulièrement, mais vraiment régulièrement, dans les différentes veilles de prière. Et pour ça, on est tellement reconnaissants. Et nous espérons améliorer un peu notre communication quant aux veilles et quand il se passe, pour qu'il y ait plus de personnes qui réalisent quand les choses vont se passer et que ça devienne une habitude. Donc, je voulais nommer nos veilleurs. Et quand je vous nomme, si vous êtes là, merci de vous élever, de vous lever pour que je puisse, voilà, on puisse te reconnaître. Donc il y a Eric et Emmanuel Tendon qui ne sont pas là, ils sont à Paris maintenant en travaillant leur visa par rapport au retourner aux États-Unis. Denis Boucher, voilà. Il y a Lana qui n'est pas là aujourd'hui. Vito et Jocelyne Pascasio. Yeah. Manuela qui est en Russie maintenant. Rusty qui revient. Moi-même. Hey. Sephora. Hey. Il y a Anna Boyd qui n'est pas là aujourd'hui. Elisabeth Pierre-Elien qui n'est pas encore là. Stella qui n'est pas là. Et Claire qui est là. Alors, quelques mots en particulier par rapport au tendon. Donc, il retourne aux États-Unis en juillet pour passer encore plus de temps dans la maison de prière à Kansas City, pour encore plus creuser dans ce puits là-bas. Là-bas, ils vont continuer à prier pour la France et la francophonie. Donc, ce qu'ils ont fait ici, ils vont continuer de faire là-bas. Ils ont une veille française. Qu'une veille, je crois, par semaine actuellement, donc ils vont augmenter ça, qu'il y a plus de veilles en français qui se passent là-bas et qui se tournent vers l'Europe. Et ça, c'est assez important. On est incroyablement reconnaissant par rapport à eux et ce qu'ils ont fait ici pendant cette année. C'était un investissement extraordinaire. On n'aurait pas pu commencer notre maison de prière sans leur moteur de démarrage. Ce qu'ils ont fait au niveau de quantité d'heures, leur énergie, bien sûr, toutes les capacités qu'ils ont, les talents et tout ça, dans toute la famille, c'est vraiment incroyable. Ils ont aussi fait en famille ce qui était vraiment super, en levant la jeune génération dans le lead, et aussi les plus jeunes dans l'accompagnement. Ils ont un don vraiment pour rassembler, et c'était important. Donc c'était vraiment cher à leur cœur qu'il y ait des gens qui investissent dans la maison de prière en tant qu'être là et d'être, se baigner dans la présence de Dieu. Aussi, je voulais mentionner Anna Boyd, qui est le premier veilleur, qui ne vient pas de l'église Josué. Elle vient de l'église Pierre Vivante. Elle travaille aussi à travers les générations parce qu'elle amène Esther avec elle chaque fois. Donc, c'est Esther et Anna qui font ensemble. Et c'est vraiment super ça. Elle est très expérimentée dans tout ce qui est de maison de prière parce qu'elle avait passé du temps à Jérusalem, à Sukkot Hallel, là où ses parents sont les directeurs de cette maison de prière à Jérusalem. Donc, elle a un grand cœur pour Israël et est très connectée là-bas. Elle ne mène pas trop de veille parce qu'elle a des petits enfants aussi elle habite à Chalon-Pays, donc ce n'est pas très facile pour elle de venir, mais on est quand même reconnaissant qu'elle est là. Donc je voulais passer en revue un peu de ce qui s'est passé cette année, les moments clés. Donc il y a un an, l'équipe ASAF créée. En été, il y avait les tendons et les jeunes qui ont vraiment boosté et commencé la maison de prière dans le rythme qu'on a actuel. En septembre, on avait l'inauguration officielle ici, devant l'église, où les anciens nous avaient bénis et libérés. Il y avait la formation par les tendons en automne, où comment se passer, comment prendre un temps dans un créneau, dans la maison de prière, et que d'en profiter. Donc c'était vraiment très pratique, on est très reconnaissant pour ça. Et en automne, on avait la rencontre annuelle de France en feu qui se passait à Paris cette année, et c'était très axé sur les maisons de prière justement. Donc il y a une croissance dans la nation aussi. En automne aussi, il y avait Anna Boyd qui nous a rejoint. On espère d'avoir plus qui viennent des membres de Josué, mais aussi plus de Josué. Et le site web de la TDR en hiver est né. Et printemps, il y a moi, cette rencontre en Augsbourg dont on va parler un peu plus. D'abord, je voulais vous annoncer un peu le site. Le site vit depuis plusieurs mois. C'est ce qu'on peut voir un peu comme la base de notre communication, la base technique. La vraie base, c'est relationnel et tout ça, mais la base technique, outils qu'on va utiliser, il y a le site. Il va y avoir autre chose aussi, les mails plus régulièrement. Il y a aussi une présence sur les réseaux sociaux. On peut trouver notre planning hebdomadaire là-bas. la grande partie de la charte se trouve dans le site. Le site est toujours un peu en évolution. Il y a aussi des ressources par rapport aux maisons de prière en général. Tu peux lire encore plus par rapport aux choses que Vito a partagées. Et on veut que ça devienne une façon de connecter avec les gens qui cherchent où se trouvent les maisons de prière. On veut que ça se voit quand on cherche pour une maison de prière en Alsace ou choses comme ça. On n'est pas encore là, j'y travaille maintenant et il y a une évolution douce dans ce domaine. Donc il y a un mois, en mai, Vito et moi, on est allés en Augsbourg, en Allemagne, et là où se passait une rencontre qui s'appelait HOPES. Et c'est un acronyme et aussi un jeu de mots en anglais. Donc l'acronyme HOP, H-O-P, veut dire House of Prayer ou Maison de Prière. HOPE, le mot avec un E en anglais, c'est espoir, mais aussi avec l'idée d'une attente spécifique. Et le E, c'est l'Europe. Et le S, c'est le sommet des leaders des maisons de prière en Europe. Donc on est allé, aussi les tendons y étaient, et c'était vraiment incroyable ce temps. Là, il y avait 4 jours, 21 pays représentés, 120 personnes, comme un peu dans la chambre haute, dans le livre des actes, et 43 maisons de prière représentées. Il y avait aussi, ainsi que l'Europe et les 43 maisons de prière, il y avait aussi des gens des États-Unis qui sont venus en tant qu'orateurs, et aussi deux maisons de prière aux États-Unis qui étaient représentées. C'était quelque chose vraiment étonnant qu'on a vécu là-bas. On parle ici de la culture d'honneur, quelque chose, une phrase qui devient très connue et vient plutôt de Bethel, mais on a vu concrètement comment ça se passe. Toute la conférence nous était offerte, mais tout. Donc, tu peux voir les gens qui sont venus, bon, on paye notre transport, mais les gens qui sont venus, par exemple, en avion, ils étaient cherchés à l'aéroport de Munich, gratuitement. Il y avait un cocktail d'accueil, le tapis rouge, véritable tapis rouge pour nous accueillir. Il y avait des badges qui disaient, est-ce que vous parlez allemand ou anglais, pour que... Quand tu as reçu les prophéties, ils savaient, voilà, on peut faire les prophéties en allemand ou en anglais. Donc, ils ont pensé à nous, à prendre soin à nous, et rien à payer. Programme détaillé, les prophéties individuelles sur une carte postale qu'on a reçue en entrant. Il y avait un dîner de gala, et on était gâtés. Là où on était logé avec un couple de pasteurs luthériennes, et c'était drôle pour moi au moins. C'était un couple, on dirait de l'extérieur, hyper traditionnel, mais hyper traditionnel. Gentil, sympa et tout ça, on est allé voir leur église, mais ils sont branchés avec la maison de prière, ils sont branchés avec les chambres de guérison. Le pasteur, ils font des rencontres avec les pasteurs et des prêtres d'autres églises, les prêtres catholiques. Une fois par semaine, il y a un petit déj, ils sont branchés aux choses de l'esprit, mais c'était vraiment énorme ce qu'il vivait là-bas. Et il nous a fait un buffet le matin, un buffet allemand. Oh là là, je ne te dis pas. Hein. Je m'excuse les Français, mais pour les petits déj, non, voilà, je ne vais pas. Ce qui était étonnant, c'est que le Gebetshaus à Augsbourg, ils n'ont que 15 équipiers qui sont en temps plein, mais temps plein ne veut pas dire qu'ils sont salariés, ils sont à leur propre soutien, mais temps plein et 15 à temps partiel. Ils ont tout fait ça et ils ont continué le 24 sur 24 dans le créneau de prière. Ils font aussi une grande rencontre chaque année C'était pour les leaders des maisons de prière. Ils font quelque chose pour toutes les maisons de prière en Europe chaque année. Dernière fois, ils avaient 4000 personnes. Donc, j'ai dit que ça chauffe là-bas. Bon, ils ont un super bâtiment, mais c'est modeste quand même. C'est pas énorme, mais c'est vraiment super. Donc, nos orateurs, on en avait trois principaux. Il y avait Jonas Hartel, qui est allemand. Un théologien catholique, je crois, ou d'arrière-plan catholique, mais un homme de connexion, de réseau. Il est connecté avec tout le monde. Je viens de voir la famille d'Anne-Elisabeth. Ils sont venus, ils habitent en Saxonie, en Allemagne, et près de Dresde. Et donc j'ai dit, voilà, on était à Augsburg, et il a dit, ah, t'as rencontré Jonas Hartel. Donc il est connu partout en Allemagne. Une vraie force de nature, moi je dirais. Après, il y avait Wes Hall, il est anglais, et il est dans le leadership de IHOP à Kansas City. Et pour moi, c'était vraiment clé qu'il y avait quelqu'un qui venait d'IHOP pour enseigner. C'est-à-dire, il y a un puits de la maison prière là-bas, très très profonde, et le fait qu'il est européen. Il a même dit qu'il a décidé de ne pas prendre son nationalité américaine là-bas parce qu'il voulait vraiment être attaché à l'Europe et rester attaché à l'Europe. Donc c'était clé pour nous d'avoir une Européenne qui nous avait parlé avec cette profondeur et cette expérience. Lui avait une très forte révélation par rapport au prophète Zacharie, âgé et Malachie. Là, ce sont les trois prophètes qui ont parlé au peuple de Dieu pendant le temps qu'il rebâtit la maison de Dieu et la ville de Jérusalem. Donc, ils ont des choses vraiment pertinentes pour nous et c'était bien d'entendre ça. Il y avait aussi Justin et Rizzo, qui est un des leaders de louange à IHOP, le plus que nous, connu, et sa femme, Naomi. Donc ils nous ont guidés dans la louange, qui était awesome, bien sûr. Mais aussi ils ont partagé dans les ateliers avec les choses pratiques. Donc c'était vraiment super ça. Donc il y avait des temps profonds d'adoration, les enseignements très forts, les ateliers très très pratiques, les connexions privilégiées, il y avait des temps de partage dans l'après-midi avec d'autres personnes dans le maison de prière, ce qu'ils vivaient, ce qu'on vivait, on priait pour les uns pour les autres. Les repas étaient des temps de contact aussi. Donc on avait vraiment le sentiment que quelque chose se passait ce week-end-là, assez historique pour l'Europe. Il y avait des connexions avec tout le monde qui était francophone, qui était là. Bon, inclut un Américain, un Nouvelle-Zélandais et aussi un Suisse, mais un Suisse au monde quand même. Et on pouvait partager tout ce qu'on a vécu, on pouvait partager les défis aussi, on pouvait se nourrir de nouvelles idées, nouvelles stratégies, pour se fortifier mutuellement et fortifier les maisons de prière en France. Donc il y a une douzaine de maisons de prière en France, à peu près, et on a rencontré là la fille, je crois, qui est la première personne qui est à plein temps comme missionnaire d'intercession en France. Donc elle est dans la maison de prière à Toulouse, et on espère de voir encore plus de ça. Donc pour moi, personnellement, j'ai retenu de grandes choses pour moi parce que j'étais vraiment impacté d'y être et d'être changé par Dieu pendant le temps que j'y étais. Je suis allé assez accablé avec les choses à faire, avec un créneau trop accablant. Et trop de choses à faire, et donc j'avais vraiment l'idée d'être un faire humain au lieu d'être un être humain. Et donc Dieu m'a remis dans le chemin d'être humain pendant ce week-end, devant sa face et son regard de bonté. Et Aussi, j'ai eu vraiment l'idée que la TDR est quelque chose qui doit être mon focus externe principal. Donc c'est cette implication qui est peut-être la chose la plus conséquente dans ma vie que je n'ai jamais touchée. Mais tout ça n'a pas de sens et n'a pas de réussite si Dieu ne reste pas le truc le plus important, si l'intimité avec Dieu n'est pas le plus important. Donc ça peut être quelque chose de très très important à laquelle je mets ma main, mais si Dieu n'est pas à la base de tout, peu importe les nombres d'heures et les choses créatives que je fais dans la maison de prière et la consécration pour l'œuvre, si la consécration pour mon Seigneur, consécration pour mon papa céleste n'est pas là, ça ne sert à rien. Donc, et ça va terminer en burn-out. Aussi, ce que j'ai retenu en tant que les leaders pour la maison de prière, c'est que nos relations sont hyper importantes. Et si les relations ne sont pas là comme fondation, on ne peut rien bâtir. Ou ce qu'on va bâtir va être petit ou ne va pas tenir. Donc, dès qu'il y a un choc, dès qu'il y a quelque chose de défiant, voilà. Donc, cet ensemble de relations, c'est très, très important. Donc, gagner de travail en équipe, pas forcément qu'en ASAF, mais aussi parmi les veilleurs, de gagner cette bataille de travail en équipe est beaucoup plus important que remplir les créneaux. On veut un jour être à 24/7. Ça, c'est un but et on veut... Voilà, ça, je crois que c'est important. Mais si on fait ça et on n'a pas de relation parmi nous, et ça, je crois que ça va pour n'importe quelle œuvre, mais si on n'a pas de relation parmi nous, tout va tomber à plat dès qu'il y a un petit souffle d'orage ou chose comme ça. L'autre truc, c'est qu'en tant que l'équipe ASAF, est-ce qu'on a une vie de prière, nous? Est-ce qu'on a des relations fortes? Est-ce qu'on sait travailler en équipe, nous? C'est-à-dire, les choses qu'on fait, nous, c'est ça qui va être reproduit. Et ça, c'est quelque chose, bon, peut-être j'ai connu à un certain niveau, mais c'était frappé comme un marteau en mon âme maintenant. Donc, c'est les questions qui me secouent un peu. Parce que pour moi, je me vois au commencement d'un grand chemin vers ces choses, d'avoir les relations fortes, d'avoir une vie de prière, d'avoir cette intimité avec Dieu d'abord. Donc, je crois qu'on a une nouvelle saison devant nous. Vito va parler davantage. Pour moi, je crois qu'il y avait un peu un carrefour au bout de cette année, une intervention de Dieu qui était nécessaire pour moi personnellement, et je crois aussi pour la maison de prière. Et comme toujours, Dieu était à l'heure, avec une provision riche et abondante avec cette conférence en Allemagne. Donc je crois que Dieu a des bonnes choses pour nous. Je laisse Vito en parler.
Je pense que tu peux rester. On va essayer de finir ça rapidement ensemble. Alléluia. Ok. Donc, je vous ai pu voir quand même tout doucement que le concept de notre prière, dans le cheminement dont on en parlait aujourd'hui, ça dégage quand même quelque chose. Tu cliques, suivant. C'est un lieu de prière qui n'est pas un lieu de prière individuel. Donc, par exemple, on a vu à Bethel, c'est plutôt quelque chose d'individuel. Il y a des temps corporatifs, mais c'est plutôt individuel. En Pays de Galles, c'est aussi quelque chose de plus ou moins individuel, personnalisé. Notre objectif est quand même, et c'est quelque chose qui est vraiment établi maintenant, on veut une louange et une prière corporative. Et un des modèles qui a été utilisé, c'est le tabernacle de David. Alors, j'ai quand même montré celui de Moïse qui est là. Parce que c'est ce que Moïse avait reçu de la part de Dieu. Et bel outil. Dieu a tout donné. Il y avait une structure, il y avait des éléments pour aller de l'avant. Mais, clic suivant, notre modèle, c'est celui-là, le tabernacle de David. Alors, je peux vous chercher. J'ai cherché partout. Je trouve nulle part une description de ce truc-là. Le tabernacle de David n'existe pas physiquement, numériquement, je ne sais pas. Si jamais quelqu'un trouve quelque chose, il peut me dire. La chose qu'on sait, c'est que Dieu, je sais que David avait laissé le tabernacle de Moïse à Gabaon, ça vous trouvez ça dans 1 Chronique 16, et qu'il a mis celui-là là. Il a allé beaucoup, beaucoup plus loin dans la relation avec Dieu que ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Il avait une révélation de la présence de Dieu et de la grâce qui n'existait pas auparavant. La seule chose qu'il y avait, c'était l'Arche de l'Alliance qu'on trouve dans le Saint des Saints. Et d'ailleurs, en écrivant Saint des Saints, j'ai beaucoup aimé les saints au pluriel. C'est nous. C'est quelque chose qui parle de nous. C'est la première fois en écrivant, je disais, waouh, le saint pour les saints, des saints. Il y a quelque chose qui est là. Et autour, il y avait la louange. Autour, il y avait l'intercession. Donc là aussi, pourquoi ce tabernacle de David? Parce que c'était quelque chose d'organisé. Il y avait une structure qui était mise en place. Les gens venaient, les gens étaient établis. Et j'ai beaucoup aimé cette découverte, c'est de voir que Dieu avait établi, au travers du roi, des personnes. C'est une autorité royale qui avait été déléguée. Établissement royal. Et donc, des gens viennent et louent Dieu, sans barrière, sans limite. Et dans plusieurs passages, donc, il est dit que c'est une prière, une maison de prière pour les nations. Donc on a un objectif, c'est pas tellement un objectif personnel, c'est vraiment l'intercession pour les nations. Les nations de France, la vie, tout ce qui est politique, tout ce qui est économique, ce n'est pas un lieu de conseil. Ce n'est pas un lieu de prière personnelle, ce n'est pas un lieu de guérison. Ça peut arriver. Et je pense que des gens ont été transformés dans ce qu'ils ont vécu dans la maison de prière. Et c'est très bien ça. Mais notre objectif, c'est de construire des équipes qui vont prier de manière corporative. Comme une armée, comme une équipe, comme une famille. Alors comme tout le monde, je suis un peu là, ce qui se passe pour l'équipe de foot aujourd'hui. Mais j'étais interpellé par une des choses qui a vraiment changé. La victoire est une belle chose. Mais ce qui a changé avant tout, ils disent on est une famille. On n'est plus une équipe. Vous vous rappelez la semaine dernière quand je parlais d'une des choses qu'on apprend au niveau des leaders, qu'on est une famille et pas une équipe, qu'on n'est pas une structure. Quand on bascule d'une compréhension qui est bonne à une autre, on va plus loin. Et je crois que dans notre maison de prière, c'est ce qu'on veut voir tout doucement arriver. C'est qu'on va construire des équipes. Et je crois que tu restes là parce qu'on peut se partager un peu ce qu'on a vécu en bâton rompu à Augsbourg. Par exemple, en France, on s'est rendu compte qu'on était tous plus ou moins dans la même étape. On avait tous besoin de redécouvrir une certaine consolidation. N'est-ce pas? Tu veux dire quelque chose là-dessus?
Vous connaissez certaines, Céline Sommer, elle travaille à Toulouse et elle a beaucoup à cœur Israël et donc un peu connue. Donc elle a mené plein de créneaux toute seule dans la maison de prière. Et quelque part, je crois qu'elle avait une préférence de faire ça. Mais maintenant, elle crée une équipe, une vraie bande avec elle. Elle ne veut plus travailler toute seule. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place pour quelqu'un qui peut mener un créneau de prière, mais qu'on cherche à faire choses au moins avec une autre personne, qu'on voit la synergie, la protection de relations et tout ce que ça amène. Il y a même Jésus qui dit, voilà, là il y a deux ou trois ensemble en mon nom, moi j'y suis. Et donc je crois que ça c'est assez important.
Alors les Français, on a été remarqués là-bas pour plusieurs choses. D'abord, on a été pété, ivre, et on a vu que les autres avaient envie de ça. On a été les seuls à un moment donné dans des 120 personnes, on était par terre, roulés. Moi, je ne suis pas non plus un des plus Comment je dirais? C'est pas quelque chose que je pratique tous les jours. Mais en tout cas, là-bas, on était dans cet état-là à un moment donné. Et c'est intéressant de voir les gens venir. Ils avaient une envie de goûter ce truc-là. Ah, les Français! Ils avaient là. Et c'était chouette. Et waouh! Il y a quelque chose. En faisant rien, simplement en étant pété de rire par terre, les gens avaient envie de ça. Alors, les Français étaient aussi bien. Je reconnais que le petit-déj généralement était extraordinaire. Le repas de gala et l'honneur à l'allemande étaient extraordinaires. L'accueil était waouh à tous les niveaux. La manière de vivre le séminaire était vraiment intéressant. En même temps, on a cultivé notre différence française, notamment avec les rires et puis les amusements. C'est intéressant de voir même Wes Hall venir à notre table et surtout le soir de gala, hein, c'était on racontait des bêtises, mais c'était monstrueux, quoi. Et des trucs qui se passaient dans notre jeunesse, on chantait Turu Tutu Chapeau Pointu. Mais Wesson, il venait là pour rigoler avec nous. Mais c'est intéressant parce qu'il y avait ce besoin de connexion, d'être humain. On peut monter dans les hauteurs, mais il faut qu'on reste humain. Si on commence à se prendre au sérieux, ça va nous monter à la tête et on va se perdre. Il faut qu'on reste humain. Il faut qu'on aime rigoler. Et par contre, qu'on soit profond. Et il y avait cette beauté dans cet échange. Et il y avait une véritable connexion avec Toulouse, avec Camille. Oh zut, j'ai oublié son nom, Mademoiselle Trovato. Et puis Karel et Simon qui viennent de Nantes. On vraiment l'a bien connecté. C'était quelque chose de bon. Et je crois qu'il y a dans cette connexion. Quelque chose s'est mis en place. Alors, l'équipe de Nantes, c'est quand même intéressant parce que c'est l'équipe d'où vient Guillaume et son frangin et Flavie. C'est eux qui sont venus en précurseur. L'été dernier, il y avait Philippe qui est venu. Et nous, on les a retrouvés là-bas. Le Sozo y était la semaine dernière. Il y a une connexion avec Nantes qui est en train de se créer. Sans qu'on l'a bâti. Et dans cette histoire de connexion, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais ces maisons de prière, elles sont en train de grandir partout. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que dans les années 2000, c'était ça, hein, le premier chiffre, il y avait 25 maisons de prière dans le monde, qui tournaient 24 heures sur 24. En 2014, il y en a 10 000. Il y en a 10 000. Ce qui est en train de se dire, c'est que, un des constats qui a été fait, c'est que plein de gens ont démarré des maisons de prière, pas parce qu'ils l'ont reçu de IHOP, et c'est ce qu'ils disaient, mais nous on l'a démarré, après on a découvert IHOP, après on a découvert ça, après on a découvert ça, après on a découvert des modèles. Mais c'est dans plein d'endroits, les gens démarrent. Ils reçoivent l'appel, ils démarrent, ils avancent, ils se connectent, et ça grandit. Rien qu'en Amérique, ils sont actuellement 3000. Une croissance énorme en 15 ans. Et donc les créneaux sont... Waouh. En Allemagne, je ne sais plus combien il y en avait, mais il y en avait un sacré paquet de maisons de prière qui tournaient. Hein. Donc dans cette étape-là, aujourd'hui, on veut vraiment travailler à consolider les équipes. On parlait de... David prenait l'exemple de l'arbre. Il y a un temps où peut-être l'arbre va grandir très fort, en hauteur. Puis à un moment donné, où il va peut-être moins grandir en hauteur, mais il va s'enraciner, il va devenir plus conséquent. Et on est dans une étape de consolidation. Et donc c'est pour ça qu'on va continuer à travailler dans l'année qui vient, à consolider des équipes, à travailler en communauté, à essayer de ne pas être tout seul, mais être à deux, trois, à essayer de s'entraider les uns avec les autres. Et je crois que là, on a besoin aussi de vous. Donc l'idée, ce n'est pas juste Azaf. Parce que bon, on travaille à cela, ça fait partie de l'Église, et on a besoin vraiment de vous. Il y a quelque chose qui est là. Si Dieu nous a appelés à faire cette demande de prière ici, ce n'est pas en vain. Alors, si jamais vous avez envie, venez nous voir déjà, on pourra en discuter, et pour voir comment ça marche. Mais commencez à venir au créneau qui existe déjà aussi. La plupart des personnes sont vraiment bénies quand elles viennent. Je rappelle cet exemple de... C'est Guillaume qui disait, le temps passé à la maison de prière le mercredi matin avec David m'a préparé au choc que j'ai vécu quand il y avait Yonaël. Même si tu n'as pas besoin, c'est un lieu de ressourcement, de transformation. Je crois que c'est difficile de faire beaucoup plus aujourd'hui parce qu'il est déjà plus que l'heure. On va juste prier pour libérer quelque chose. Ça te va, ça? Ok. Papa, on prie pour tout ton peuple qui est ici. Et on veut libérer ces choses qu'on a reçues à Augsbourg. Cette espèce d'urgence qui est venue dans la vie de David, dont il est enceint aujourd'hui. Cette force qui est là, cet objectif. Prions de libérer cela dans la vie des uns et des autres. De libérer une nouvelle connexion avec toi. On veut libérer aussi l'honneur qu'on a reçu là-bas. Cette espèce d'incroyable encouragement. Cette force tranquille que tu es à l'œuvre et que tu progresses. On veut libérer la force dans les entrailles de chacun. C'est-à-dire que chacun va repartir d'ici en ayant reçu un dépôt, un dépôt vivant. C'est-à-dire, tu dis que ton royaume, c'est comme du levain qu'on met dans la pâte et toute la pâte monte. Je prie ce matin pour que le levain soit déposé. Le levain s'est déposé et alors qu'ils vont rentrer chez eux, la pâte va fermenter. Quelque chose va grandir, ils vont se dire, mais ça a bougé, ça a changé. Alléluia, Jésus. On libère ton esprit sur leur vie. On libère ta gloire.
Seigneur, je prie maintenant pour nous tous que tu mets dans nos cœurs cette soif pour toi, cette soif d'être dans ta présence, de vivre ta présence dans le quotidien, là où on en est, dans n'importe quel lieu. Seigneur, donne-nous ce soif de savoir qui tu es, de changer nos pensées en te regardant, de changer nos regards par rapport à nous en te regardant. Seigneur, je prie que ça soit répandu fortement sur nous tous. Et Seigneur, qu'on puisse vraiment entendre ta voix par rapport à nous. Qu'est-ce que toi tu penses par rapport à nous? Quand on vient dans le lieu secret, qu'on s'écarte pour être avec toi. Seigneur, on veut entendre ta voix. Donc je prie maintenant pour les oreilles débouchées, les cœurs prêts à recevoir ce que toi tu as à dire maintenant, Seigneur.
Amen, papa. Et papa, tu es le Dieu de l'histoire et tu nous conduis sur ce chemin maintenant où tu bâtis ton église, mais tu bâtis aussi des lieux de guérison, tu bâtis des écoles et tu bâtis aussi des maisons de prière. C'est toi qui bâtis et nous simplement bâtis avec toi. Et je vous prie que dans cette étape, on puisse marcher d'un même pas avec ton esprit et bâtir de la bonne manière. Merci pour toutes les étapes qu'on a pu vivre durant toute l'année et on bénit le temps qui s'est passé comme étant une journée, quelque chose dans le chemin. On bénit ce temps-là et on dit avec toi c'était bon. Ça n'a pas toujours été facile, mais on dit que c'était bon. Et papa, on vient dans un nouveau temps. Oui, on ouvre ce nouveau temps avec toi pour que les choses encore meilleures se passent, pour qu'on arrive au très bon. On ouvre ce nouveau temps avec toi, dans le nom de Jésus. Alléluia, papa. Amen.